Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
Non, tape-toi. C'est pas ça.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. C'est pas du vent. Anne-Cécile Bras.
L'anthropologue Claude Lévi-Strauss l'a écrit il y a longtemps. L'ensemble des coutumes d'un peuple forme des systèmes qui sont la base de leur fonctionnement. C'est ce qu'il appelait la science du concret, une science longtemps méprisée parce que non écrite. Mais face à la disparition massive de la biodiversité, les savoirs traditionnels des populations locales, leur connaissance fine de leur environnement et de son fonctionnement intéressent de plus en plus les scientifiques. C'est le cas au cœur du Pacifique, en Polynésie.
Je suis Frédéric Torrent, je suis anthropologue au centre de recherche et observatoire de l'environnement dans l'île de Moorea, donc près de Tahiti.
Nous sommes là sur l'île de Moorea, dans une vallée bien particulière, sur un site bien particulier.
Oui, nous sommes donc au centre, au cœur de l'île, au centre du cratère de Moorea, dans la vallée de Opunohu, qui est donc une vallée qui occupe pratiquement tout le centre de l'île et qui était une vallée autrefois très très habitée.
Et qu'il y a beaucoup de sites sacrés.
Oui, alors dans cette vallée, il y a à peu près 500 sites archéologiques, 500 structures recensées. Cette vallée donc était contrôlée par des chefs polynésiens qui en fait exploitaient les conditions naturelles de la vallée, qui sont caractérisées par une hygrométrie extrême, donc une pluviométrie assez importante, et donc qui produisait une fertilité très poussée. Et donc il y a énormément de terrasses de culture. Et bien sûr, il y avait tout un tas de sites cultuels qui correspondaient donc à ces terrasses agricoles.
On n'a pas de mal à imaginer, en effet, le taux d'humidité, puisqu'on le ressent bien. Là, on est au cœur d'une forêt, pour simplifier, qui ressemble un peu à l'image que l'on a de la jungle. Et on est face à un de ces sites cultuels. Comment ça s'appelle et est-ce que vous pouvez nous le décrire?
Oui, alors là, nous sommes face à ce qu'on appelle en Polynésie un marae, c'est-à-dire un site qui est à la fois un site non seulement religieux, où on pratique des rites religieux, mais également un ensemble qui va favoriser la connexion avec les dieux et les ancêtres de toute la communauté. C'est-à-dire que c'est un espace avant tout social et un espace qui va légitimer le pouvoir des chefs polynésiens, les ari'i. Donc cet espace est vraiment un espace sacré, on dit tapu en Polynésie, c'est-à-dire que c'est à la fois interdit pour les gens du commun, mais à la fois sacré également.
Alors, à la radio, on n'a pas l'image, donc il faut décrire un petit peu ce site sacré et donc dans cette forêt magnifique. C'est un grand rectangle de 25 mètres sur 8, tout en pierre. Est-ce qu'on peut décrire ce lieu?
C'est tout simple. On va dire que les temples des Polynésiens étaient des temples à ciel ouvert, constitués donc d'une base en pierre, et puis de tout un tas de structures qui ont aujourd'hui disparu, puisqu'elles étaient en végétal, tout un tas de petites maisons qui étaient sur le site même, qui contenaient les images des dieux, etc. Et vous avez aussi une architecture particulière qui varie selon les archipels. Ici, nous avons un ensemble, une espèce de petite pyramide avec 3 degrés, qui correspond, dans l'image de la religion ancienne, aux couches du ciel dans lesquelles les dieux résidaient.
Là, on arrive donc à la vision du monde, finalement, qu'avaient les Polynésiens de manière traditionnelle, une vision du monde qui était complètement liée à leur rapport, à leur environnement, qui est un environnement très particulier, évidemment. Ce sont des îles, la mer, la terre, le ciel, tout ça est lié.
Oui, alors justement, les Polynésiens, à la différence de la vision européenne, ont une vision holistique de l'environnement, c'est-à-dire qu'ils conçoivent leur environnement comme un ensemble d'éléments qui font partie d'un tout. Notamment, il n'y a pas de séparation, comme en Europe, entre nature et culture. La nature, qui n'existe pas en polynésien, puisque le terme a été inventé, natura, pour coller aux concepts occidentaux, cet environnement, on va dire, est un ensemble cohérent de choses qui sont liées généalogiquement. Le soleil, par exemple, et la lune sont liés, les éléments de la nature, les éclairs, la foudre, tous ces éléments-là, sont liés généalogiquement dans une immense généalogie, et en fait l'homme occupe une petite place en fait dans ce continuum. au plus haut les dieux, au plus bas les ancêtres qui sont vraiment sanctifiés au plus bas de la terre vers le monde des origines. Le monde des origines est essentiel puisque les origines du monde polynésien sont situées au plus profond des océans, à la base de ce qu'on pourrait appeler une spirale qui va remonter petit à petit vers la surface où on va aller vers la lumière et vers la vie.
C'est une vision du monde en spirale ?
Oui, on pourrait parler de spirale étant donné que l'espace et le temps sont confondus, hein, puisque quand on va aller au plus bas de cette spirale, on va au plus bas des origines, et dès qu'on remonte à la surface, au plus large de la spirale, dans le temps présent, eh bien là, on va se retrouver à la surface et dans la vie actuelle, le monde de la lumière dans lequel on vit aujourd'hui.
Et quand on arrive en Polynésie, on est accueilli par un collier de fleurs qui nous entoure. Ça, on le voit partout. Les fleurs jouent un rôle extrêmement important dans la vie polynésienne. On voit les femmes avec des couronnes fantastiques, toujours des fleurs dans les cheveux. Il y a un vrai art de ça. Est-ce que ça a une origine sacrée ?
Tout d'abord, déjà, le monde végétal est un monde qui est extrêmement important pour les Polynésiens, qui sont d'abord à l'origine des migrants océaniques, donc qui sont sur des pirogues. Et dès qu'ils vont découvrir une terre, l'obsession, quand on aura pris possession de la terre et qu'on l'aura nommée, qu'on aura installé son groupe, eh bien, c'est de planter les plantes qui ont été importées dans les pirogues pour pouvoir recréer son monde dans chaque île qu'ils vont rencontrer. Alors, en ce qui concerne le fait d'encercler les choses, eh bien, c'est effectivement dans la religion polynésienne ancienne, ça correspondait à un rite particulier qui correspond à un système d'enveloppement du sacré. C'est un peu un système de poupée russe.
C'est-à-dire que le plus sacré est au cœur, et après c'est un peu comme un oignon finalement, il y a des couches.
Oui, absolument. Et en fait, c'était destiné à protéger. C'est un petit peu à quoi correspond le mot tapu. Tapu, c'est vraiment isolé d'un contact profane et protéger ce qui est sacré. Donc quelque chose de tapu, c'est quelque chose qui est interdit parce que c'est sacré.
On est donc dans cette forêt, mais on est entouré, dès qu'on lève un peu la tête, de grandes aiguilles en basalte, en pierre de lave. Ce sont les anciennes parois du volcan, finalement. Et ces parois sont sacrées, enfin en tout cas le haut.
Oui, alors toutes les chefferies polynésiennes sont organisées suivant le même schéma, c'est-à-dire qu'il y a un territoire qui est délimité, il y a un site sacré au milieu, et de ce site sacré correspond une montagne qui est elle-même une référence sacrée puisqu'elle est la plus près des dieux. Alors ici, nous sommes en face du mont Rotui, qui est en fait une montagne, on va dire, sacrée par laquelle étaient censés se cheminer les esprits des morts. Cette âme du mort, enfin en tout cas l'esprit du mort, le Varois, était censé donc se détacher du corps et cheminer, avoir un cheminement propre. Si l'esprit était à Tahiti, il passait par un endroit particulier et puis il sautait sur cette montagne que vous voyez là, le mont Rotui à Moorea, et puis après il ressautait de l'autre côté sur la montagne sacrée de Raiatea, qui est un petit peu conçue comme le centre du monde polynésien, enfin en tout cas à une certaine époque. Et ce mont Temehani à Raiatea était vraiment le lieu où l'âme soit allait vers un séjour paisible, soit elle allait vers un séjour un petit peu correspondant à celui de l'enfer chrétien. Et donc effectivement, c'est un petit peu le centre d'un réseau politico-religieux ancien qui s'appelait le réseau Taputapuaatea. C'est un petit peu la liaison de tous les peuples du Pacifique, notamment les peuples polynésiens.
Quand est-ce que la Polynésie a commencé à être habitée ?
Le peuplement initial des archipels est assez difficile à déterminer. Les schémas classiques montrent un peuplement initial vers les îles Marquises, autour de 400 après Jésus-Christ.
Et d'où venaient ces marins ? C'est une épopée extraordinaire, ça.
Oui, alors là aussi, il y a eu de grandes théories qui ont animé toutes les équipes d'océanistes. Depuis des centaines d'années. Dans les années 50, les scientifiques voulaient montrer que les Polynésiens venaient d'Amérique du Sud. Alors il y a eu des expéditions avec des radeaux de Balzac qui étaient construits par Torrey Hardal notamment. Et puis effectivement, ils ont atteint les Tuamotu en radeau depuis les côtes péruviennes pour montrer que c'était possible de venir du Pérou. Aujourd'hui, ces théories sont un petit peu contrebalancées par tous les moyens scientifiques que l'on a aujourd'hui, toutes les disciplines, qui présente le peuplement de la Polynésie comme l'inverse, en fait, venant d'Asie du Sud-Est. Et d'ailleurs, la linguistique, la génétique, tout ça, va dans le même sens.
Comment est-ce qu'on peut, même schématiquement, détailler ce périple ?
Oui, alors ce périple, il commence il y a très longtemps, il y a 38 000 ans, à partir du moment où, à la fin de la glaciation, toutes les terres qui se trouvent vers l'archipel de Bismarck, c'est-à-dire vers la Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui était un continent, vont s'avérer être des îles puisque l'eau va monter à la fin de la glaciation. Et donc ces gens qui étaient chasseurs-cueilleurs vont se retrouver finalement sur des îles, et il est montré qu'ils ont commencé à inventer des radeaux, donc les premières navigations préhistoriques, hein, pour commencer à aller explorer un petit peu, aller justement contre ce vent. Donc après, il y a tout ce qu'on appelle les Austronésiens, ce peuplement austronésien qui va donc peupler tout le Pacifique qui correspond à la Mélanésie, puis après l'archipel des Tonga Samoa, où là, à cet endroit-là, va s'individualiser en fait la civilisation polynésienne, proprement parler. Et il va y avoir une grosse pause de 600 ans, où à partir de là, eh bien, les migrants vont commencer à peupler la Polynésie orientale.
Pour revenir à la vision du monde basée sur les croyances, est-ce qu'aujourd'hui, dans la population polynésienne, malgré la colonisation, malgré l'évangélisation, il y a encore des signes de cette connexion à l'environnement de la part des Polynésiens ?
Cette connexion, elle est essentielle, elle est même capitale. Et elle commence tout d'abord par l'enracinement profond des Polynésiens à leur terre, enfin, ça c'est même des Océaniens, mais aujourd'hui il y a un rite qui est encore pratiqué, c'est le rite d'enterrement du placenta, hein, qui est encore pratiqué aujourd'hui dans toutes les familles polynésiennes, et ce rite est censé justement attacher le nouveau-né à sa terre. Ça c'est l'attachement profond du Polynésien à sa terre. Et au niveau de la religion ancienne, il y a forcément, même malgré la christianisation, il y a forcément des formes qui continuent à agir, et notamment tous les rites anciens liés à la pêche, hein, à la mer, au monde marin, qui sont encore aujourd'hui des rites païens, qui sont encore aujourd'hui pratiqués dans les îles des Tuamotu. Par exemple, le pêcheur qui veut avoir une bonne pêche va aller sur un site sacré, hein, un marais, et il va confectionner un poisson sacrificiel qu'on appelle un takikawa, et il va le manipuler de façon à, par exemple, à orienter la tête du poisson sacrificiel vers l'intérieur de la passe pour pouvoir attirer le poisson.
J'imagine que tout était organisé sous forme de clans avec des chefs. Comment ça se passait ?
En Polynésie, ici, on parle plutôt de chefferies, et ces chefferies correspondaient à des éléments du terrain absolument importants, et chaque chefferie avait sa montagne sacrée, où se trouvaient bien sûr les dieux, et puis où on allait enterrer les restes des morts sur les falaises, on allait cacher les ossements. Et puis après, selon une vision pyramidale, on descendait dans les vallées, puis on allait vers la côte où habitaient les chefs, et on arrivait à l'espace lagonaire, qui était lui aussi approprié, pour arriver jusqu'à la partie du récif. Et aujourd'hui encore, la possession de la terre chez les Polynésiens, elle va du sommet de la montagne jusqu'au récif. Ce qui fait naître d'ailleurs des incompréhensions, hein, de la part des revendications foncières, puisque ça va un petit peu à l'inverse de la loi étatique.
Est-ce que l'évangélisation a vraiment éradiqué toutes les croyances, ou est-ce qu'aujourd'hui, dans la population, il y a une envie de revendiquer un peu ces croyances traditionnelles ?
Il y a énormément de pratiques syncrétiques, que l'on appelle, c'est-à-dire de mélange d'emprunt de religion traditionnelle sous forme de religion chrétienne.
Est-ce qu'il y a des revendications de revenir par affirmation identitaire à cette religion traditionnelle ?
Effectivement, il y a un renouveau culturel donc, qui passe forcément par ces monuments, par ces anciens rites. Il y a quand même beaucoup de gens qui continuent à vivre, ne serait-ce que... Oui. Il suffit de voir les Polynésiens dans une cascade, dans une vasque d'eau, et vous verrez toute la magnificence de ce culte de l'eau, par exemple.
Et d'ailleurs, pour mettre en avant cette culture, dans cette vallée, il va bientôt y avoir un centre culturel, parce que ça fait partie aussi de la reconnaissance de cette culture, notamment vis-à-vis, par exemple, des 80 000 touristes qui viennent par an à Moréa.
Oui, alors... L'avantage de cette vallée, c'est que c'est un domaine public territorial. Un de ses mérites, c'est d'avoir protégé tous ces sites archéologiques que l'on voit ici, des assauts de la modernité, des constructions, etc. Donc en fait, ça fait un petit peu un réservoir de culture. Aujourd'hui, on montrait seulement les monuments aux touristes. Il y a à peu près 80 000 touristes par an. Ces monuments, c'est bien joli de voir les pierres, etc. Mais il faut quand même qu'ils soient animés par un esprit, par la culture polynésienne. Et effectivement, il va y avoir un centre culturel dans le cadre notamment de plusieurs projets européens, notamment le projet Intègre sur lequel nous travaillons. Et dans ce projet, le directeur du service du développement rural qui gère ici le domaine a décidé donc avec la population et les concertations qu'il y aurait une surface de terre allouée à la création d'un centre culturel qui va donner de la vie à la vallée et qui va permettre à tout le monde de s'exprimer. Notamment de montrer aux touristes quelque chose que la culture polynésienne est encore bel et bien vivante.
Et aussi de créer des emplois, parce que là, pour le coup, ça profitera directement aux habitants de l'île, contrairement aux grands hôtels qui profitent plutôt aux Occidentaux.
Oui, effectivement, aujourd'hui, la population n'a pas toujours l'impression d'être impliquée dans, en tout cas d'avoir des retombées personnelles du tourisme de masse qu'il y a à Moréa. Et justement, c'est un petit peu ce centre culturel sera une plateforme pour notamment créer des emplois et occuper un bon nombre de jeunes qui sont sans emploi aujourd'hui dans le village d'à côté.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que ce programme européen Intègre qui justement montre qu'il y a une reconnaissance de la culture des peuples océaniens ?
Oui, alors ce programme Intègre est un programme de recherche scientifique participative que l'on appelle. C'est-à-dire que, un petit peu à l'inverse de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, ce sont des nouvelles méthodes qui vont permettre aux scientifiques d'apporter simplement des outils aux populations pour se réapproprier leur propre gouvernance, et notamment en matière d'environnement. C'est-à-dire que cette conscience environnementale, qui est croissante, bien sûr, face, par exemple, aux problématiques du changement climatique, eh bien, ici, elle est assez importante. Les gens commencent à prendre conscience que le monde change, que l'environnement change, et qu'il va falloir préparer ses enfants à tout ça. Et justement, ces programmes-là permettent à la population, on leur donne des outils de réflexion, et de permettre de retrouver notamment leur identité et de montrer sur une plateforme assez importante qu'ils avaient eux aussi des connaissances. Il n'y a pas que les scientifiques qui ont des connaissances. Il y a ces connaissances vernaculaires, ce qu'on appelle les sciences du concret, que précisait Lévi-Strauss. Eh bien, ces Polynésiens ont des sciences très précises de l'environnement, en tout cas une vision particulière des savoirs autochtones qui sont très précis, notamment par rapport aux plantes, par rapport aux produits de la mer. Et ces choses-là, eh bien, il faut que ça ressorte un jour et ne pas laisser partir les anciens dans leur tombe avec tout leur savoir.
Merci Frédéric.
Merci.
Le projet Intègre, soutenu par l'Union européenne, redonne aux populations locales la fierté de leur identité. Il se décline aussi en Nouvelle-Calédonie, à Wallis et Futuna et sur les îles Pitcairn. Restez sur RFI, on se retrouve juste après ça.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
Se déguiser en buisson pour guetter les chevreuils ou passer des heures devant un aquarium pour traquer le regard du silure. C'est le quotidien des élèves passionnés de l'IFCAM, l'Institut francophone de formation au cinéma animalier de Ménigout. Ménigout, c'est le village voisin où se tient depuis plus de 30 ans le Festival international du film ornithologique. Cette école publique et quasi gratuite enseigne aux élèves en 2 ans les techniques de cinéma et d'écriture, l'approche de la faune, une déontologie rigoureuse et comment financer et vendre son film. C'est un reportage de Cerise Maréchaux.
Voilà, c'est un gros sac.
Et alors ouais, dans le sac du cinéaste animalier, il y a plein de belles choses. Trépied, donc obligatoire pour l'affût. Toujours avoir un petit peu à boire aussi, parce que c'est très long des fois les affûts. Ça, c'est une guilie. C'est des tenues un petit peu militaires en fait.
De camouflage en fait.
Voilà, c'est ça exactement. Et du coup, là je me déguise en buisson grosso modo.
C'est du lainage en fait
c'est... Oui, c'est des fils qui sont cousus sur une petite veste en fait. Et avec des couleurs marron, des couleurs sombres. Et il y a le masque qui va avec. Les animaux voient beaucoup les parties claires de notre peau. Donc ils sont très sensibles à notre visage et à nos mains. Je pense que c'est qu'un petit orage, ça se gâte un petit peu. Mais on va prier.
Comment tu t'appelles ?
Thibaut. Je viens des Alpes du Sud. C'est pas du tout le même milieu, je suis pas du tout habitué à cette région, mais... La Gâtine poitevine. Gâtine, ça signifie que la terre est un petit peu humide, on va dire, et là, c'est bien prouvé aujourd'hui.
Il y a beaucoup de traces de pas, là.
Oui, ça fait 4 jours que je viens filmer ici. C'est un endroit qui est très connu des étudiants de l'IFCAM. Parce que régulièrement, il y en a qui viennent filmer justement le chevreuil. Parce que c'est un des rares endroits où ils sont pas chassés. Et du coup, c'est agréable de pouvoir filmer des animaux qui se sentent plus en sécurité que quand on les suit et qu'on les fait courir. Donc là, on va passer par-dessus la haie. Vas-y.
Merci. L'IFCAM, c'est le nom de l'école.
L'Institut francophone de formation au cinéma animalier de Ménigout.
Et là, on est sur des terrains qui appartiennent à l'école ?
Non, on a un terrain à l'école de 70 hectares.
70 hectares ?
C'est ça, exactement. On a une petite forêt, on a une zone humide, des petits marécages, tout ce qu'il faut pour filmer. Après, pour certains animaux, c'est mieux de sortir de ce cadre et d'aller dans des endroits où il y a quand même une forêt un peu plus dense. On va prendre tout droit, là. Là, on va commencer à ouvrir l'œil, mais je vois rien qui bouge pour l'instant. L'intérêt du chevreuil pour mon sujet, c'est que donc le chevreuil fait son grand retour en France, hein, pour resituer le contexte. Du coup, il y a une espèce qui s'appelle le chevreuil de plaine, qui vit uniquement sur les terres agricoles. Du coup, c'est évidemment important pour mon sujet d'en parler, de voir comment ce chevreuil s'adapte à vivre hors des milieux forestiers.
Et tu travailles sur quoi, là ?
Justement, sur la réappropriation des terres agricoles par les animaux sauvages. Ces animaux qui, parfois, causent du tort aux agriculteurs. D'en parler et de voir si on peut trouver une solution pour concilier à la fois nature et agriculture. On va aller se poster dans la haie, là, au fond.
Ça fait combien de temps que tu étudies à l'IFCAM ?
Ah, c'est ma première année. C'est 2 ans, le master. Après, qui peut être complété par une troisième année, où généralement, c'est un film collectif qui est réalisé par les étudiants de l'IFCAM. Donc, ils sont sortis.
La promo se réunit pour faire un film tous ensemble ?
À l'étranger, généralement. Et donc, pendant les 2 ans, on cherche des financements pour faire ce film.
Vous avez déjà des idées pour votre projet de troisième année ?
Oui, on réfléchit à plusieurs sujets et après on votera.
T'aimerais faire quelque chose en particulier, toi ?
Les écureuils volants en Estonie qui est menacé de disparaître à cause de la déforestation principalement. Du coup, c'est une bonne manière d'aborder avec un animal mignon, entre guillemets, la problématique de la déforestation qui touche tout le monde, partout. Et on a un sujet sur la confrontation entre le renard polaire et le renard roux. Avec le recul de la neige, ils se retrouvent sur le même territoire en fait. Et du coup, le renard roux est plus gros et du coup, il a le dessus sur le renard polaire. Donc c'est un sujet super intéressant, mais qui va demander beaucoup d'investissement de notre part parce que c'est très loin, il fait très froid et voilà, c'est dans le Yukon, au Canada, très très loin. On va s'installer.
Ouais.
Fais gaffe, les branches piquent énormément. Ça tient pas. Maintenant, on attend.
Dominique Brouard, vous êtes le directeur de l'Institut francophone de formation au cinéma animalier Dominique Goutte. L'IFCAM, c'est la seule formation publique pour apprendre le cinéma animalier en Europe. Comment est née cette école ?
Dans le prolongement du festival Dominique Goutte, qui est un festival de films animaliers qui existe ici depuis 1985, nous ici à Ménigoutte, on a connu au festival des sélections en 16 mm. Donc c'était lourd, il n'y en avait pas beaucoup. Et puis est arrivée là-dessus la vidéo. Alors c'était pas très bon au départ, mais ça s'est assez rapidement amélioré. Et puis est arrivée surtout la multiplication de chaînes de télévision qui diffusent essentiellement du documentaire, voire beaucoup de documentaires animaliers. Là, il y a une niche qui s'est ouverte, mais c'était souvent mal filmé parce que le cinéma animalier, ça obéit à un certain nombre de techniques de captation. Ça obéit également à une connaissance du milieu. Je me suis dit, non d'une pipe, il faut absolument qu'on mette en place une formation, parce que ce sont des films qui s'exportent très très bien à l'étranger, et puis parce que c'était à l'époque où allait sortir Le Peuple Migrateur, Jacques Perrin, je voyais l'enthousiasme, l'engouement autour de ce projet, je me suis dit voilà, il y a une place en France, en Europe, pour une école dédiée à ce domaine-là. Ensuite, il y a quelque chose qui a évolué de manière conséquente, c'est la technique, hein. Ça devient accessible. Le problème de l'accessibilité d'aujourd'hui, c'est que ça peut être dangereux. Dès que vous approchez d'espèces fragiles qui sont menacées, eh bien, une espèce par exemple comme la fauvette à tête noire qui est hypersensible, vous pouvez être sûr que si vous en approchez trop, vous détruisez la nichée. Vous pouvez accentuer le danger de disparition auquel elles sont confrontées du seul fait du cinéma animalier. Donc il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc ça, c'était aussi une dimension que j'ai souhaité intégrer à l'IFCAM, c'est-à-dire on ne fait pas n'importe quoi dans la nature.
Thank you.
Donc là, vous êtes plusieurs étudiants de l'IFCAM en colocation dans cette maison.
On est trois, ouais.
Là, c'est un aquarium.
Voilà, c'est pour mon film, donc un aquarium avec des... J'essaie de recréer un semblant de fond de rivière, donc avec du sable, des graviers, des rochers, des bois morts, des plantes, etc., etc., et des poissons. Donc, cette année, je travaille sur le silure, donc, qui est le plus grand poisson d'eau douce d'Europe et le plus gros au monde. Plus de 2 mètres de long, donc dans l'aquarium, ça serait un peu compliqué. Et sauf que dans sa rivière, il n'est pas tout seul, donc je vais montrer un petit peu la vie qu'il y a autour aussi, et c'est à ça que va me servir cet aquarium.
Pour aller chercher des détails de l'anatomie, les gros plans sur les yeux, les reflets sur les écailles, des choses comme ça.
Ah, on voit bien là, sur l'écran.
Ouais, bah après, toute la difficulté, c'est d'arriver à avoir le point, parce que la zone sur laquelle l'image est nette est très peu profonde, donc il suffit que le poisson s'approche ou s'éloigne un tout petit peu et j'ai plus le point, quoi.
Ton film sur le silure, qu'est-ce que tu voudrais raconter ?
Bah, le silure, c'est un animal sur lequel on entend beaucoup de choses, beaucoup de bêtises notamment. C'est lié au fait qu'il est très grand, qu'il est arrivé très vite, c'est-à-dire qu'il y a 30 ans de ça, il n'y en avait pas, maintenant il est partout sur le territoire.
Il est arrivé d'où ?
Originellement, il vient d'Europe de l'Est. On l'a introduit en fait pour la pisciculture continentale, et puis comme à chaque fois qu'on introduit une espèce pour l'élever, bah, il s'échappe. Donc ouais, c'est un poisson qui est énorme, plus de 2 mètres, donc on a eu droit à toutes les rumeurs du type « il mange les chiens, il attaque les enfants, il attaque les gens », c'est archi faux.
Comme le loup.
Oui, voilà, c'est ça. Dans les années 80-90, on a commencé à entendre beaucoup de choses comme ça, les pêcheurs qui se plaignaient que soi-disant le silure bouffait tout dans les rivières, ce qui est archi faux aussi. Donc j'aimerais bien aller un peu contre toutes ces idées-là, parce que c'est complètement faux, et en termes de biodiversité, c'est plutôt un plus, quoi. Il a remplacé certains prédateurs, notamment le brochet, qui ont été énormément pêchés et qui n'étaient plus en nombre assez grand pour réguler les populations de poissons proies. Donc il y a eu une époque où les pêcheurs racontaient qu'ils prenaient beaucoup de poissons malades, mal formés, etc., parce que manque de prédateurs. Et bah, du coup, ça a un peu rééquilibré tout ça. Donc c'est toutes ces choses-là que je voudrais un peu mettre en avant pour réhabiliter un peu l'animal, qui en plus n'a pas une tête spécialement mignonne, il faut bien l'admettre. Je viens du milieu scientifique et ce dont je me suis rendu compte là-bas, c'est l'écart absolument monstrueux qu'il y a entre ce qui se sait dans les labos et ce qui est connu du grand public. Il y a un gros problème de transmission des connaissances. Les chercheurs sont les premiers à l'admettre d'ailleurs, mais ils sont aussi les premiers à admettre qu'ils ne savent pas faire. Et du coup, bah voilà, j'aimerais bien sortir un peu les infos des labos, surtout sur des questions comme ça, où ça peut quand même avoir des grosses implications. Mais comme je l'ai dit, on a failli le passer en nuisible. Classement nuisible, ça veut dire que sur n'importe quel endroit, si on décide de l'éradiquer, on a le droit. Bah, autant essayer que le plus grand nombre ait les bonnes infos, quoi. Puis, oui, le chat, c'était gentil, mais là, ça va être compliqué.
Bah, il est intéressé par les poissons, évidemment. C'est ça. C'est beau, un poisson de près, comme ça.
Bah oui, c'est bien pour ça qu'on va sous l'eau.
C'est souvent les documentaires qui se passent sous l'eau, ou je sais pas, c'est sous l'eau, donc les gens ont tout de suite des envies de poésie ou de sensibilité, je sais pas quoi. J'ai souvent l'impression que c'est dans ce type de documentaire qu'on va avoir beaucoup plus de référence aux sensations de la personne qui filme ou qui réalise. C'est souvent assez plaisant, hein, cette idée de pas cacher qu'il y a quelqu'un derrière la caméra.
Ce dont souffrait le cinéma animalier, de mon point de vue, hein, c'était vraiment d'une question d'écriture. Certes, les belles images étaient présentes, mais l'histoire ne l'était pas toujours. Et même si on veut travailler sur la dimension scientifique d'un film, ça ne dispense pas d'un travail d'auteur. Personne n'a le même point de vue. L'auteur, c'est celui qui a un point de vue, le sien, sur un phénomène qui a été vu 1000 fois, mais jamais interprété de sa manière à lui. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life, you were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life,
You were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly, into the line of a dark black night.
Alors, je suis Yves-Marie Siroise, je suis responsable du visuel de l'IFCAM. Là, on est sur le site de l'IFCAM.
En fait, c'est un ancien corps de ferme.
C'est un ancien corps de ferme du 17e, je crois, mais je ne veux pas dire de bêtises, qui a été remis au goût du jour, un peu en essayant de le garder dans son jus, mais avec des procédés de haute qualité environnementale. Il y a un bâtiment où il y a le matériel qui est mon bureau aussi. Après ici on a le bâtiment administratif avec les salles de cours et la bibliothèque, et après on a la grande grange qui nous sert de salle de cinéma quand on regarde les films des étudiants, et après on a les studios de montage mixage qui sont ce petit corps de ferme là.
Là c'est le studio de montage.
Studio de montage, oui, hein. Ariane et Félix en plein boulot de mixage. Là, à l'heure actuelle, ils sont sur du mixage d'un petit film qu'ils sont en train de réaliser. Vous le faites pour quoi, le film ?
Moi, mon projet personnel cette année, c'est un film sur l'Avone, donc qui est la rivière qui passe en dessous. Et je suis trois personnages, donc j'ai un martin pêcheur, une épinoche et une famille de ragondins.
Comment ça se passe ?
Pas terrible pour le moment, vu la météo. J'ai eu des crues assez importantes qui ont pas mal fait bouger les choses. Les martin pêcheurs sont partis, donc... Voilà.
Comment t'envisages la suite pour en faire ton métier ?
Moi, je conçois plus ça comme les réalisateurs qui font des petits films, des films à moyen ou à petit budget pour des choses comme la Salamandre.
C'est quoi la Salamandre ?
C'est un magazine suisse sur la nature et les animaux qui produit tous les ans, je ne sais plus si c'est 3 ou 4 documentaires animaliers. Qui sont des films vraiment intéressants sur lesquels on sent que le réalisateur a eu complètement la liberté de faire ce qu'il voulait, et j'aimerais bien. Mais après, ça n'empêche pas non plus, j'adore aussi ce que font des grosses boîtes de prod, même étrangères, comme par exemple la BBC, qui, même s'ils font des choses qui sont hyper formatées télé, grand public, il faut qu'on puisse allumer la télé à n'importe quel moment du film et qu'on ne soit pas perdu quand même dans ce qui se passe, tout ça. En attendant, ils font quand même des images qui sont complètement hallucinantes et... Si j'ai des occasions, des opportunités de travailler pour ces structures-là, ça me plairait aussi vachement. Mais
ça veut dire quoi être formaté pour un film animalier ?
Par exemple, il peut y avoir des images ou des bouts de séquences qui sont attendus et que du coup la production va vouloir avoir, même si c'est pas faisable avec des animaux sauvages ou qu'on peut pas, ou c'est pas des choses qu'on peut voir dans la nature. S'ils en ont besoin pour leur histoire, ils ne feront pas l'impasse dessus et ils prendront, un renard apprivoisé et un lynx apprivoisé pour avoir une course-poursuite dans la neige et avoir l'image qu'il leur faut.
Ça arrive.
En fait, dans les films, ça casse un peu le mythe, mais dans les films, par exemple, dans les très grosses productions, comme le dernier film de Jacques Perrin.
Comment il s'appelle ?
Les Saisons. La part d'animaux sauvages dans le film est... presque anecdotique en fait par rapport au reste. C'est une énorme partie d'animaux qu'on appelle imprégnés, donc qui gardent des comportements sauvages mais qui ont été élevés à côté des hommes et qui donc ont absolument plus peur d'eux et qu'on peut approcher à quelques mètres et mettre tout un gros dispositif de tournage avec une équipe de tournage, des grosses caméras, des gros micros, des choses comme ça, sans qu'ils s'inquiètent. Donc c'est plus vraiment le cinéma animalier comme on peut peut-être plus le concevoir ici, où l'image animalière, elle se mérite, on la cherche, on fait des affûts, on se cache dans la nature, on attend que ça arrive et on espère pouvoir la capter de manière à la rendre fidèlement. Mais quand on fait du film animalier, il y a une sorte de pacte tacite où en fait le spectateur s'attend à ce qu'on lui montre, ça soit vrai.
L'aube, la renaissance, la promesse d'un nouveau jour. Je regarde le creux des vieux chênes gris, enveloppé de ce brouillard étouffant. seul, je ne le suis pas.
Que penser des films animaliers assez récents, des grosses productions qui vont jusqu'aux salles de cinéma notamment, et qui réalisent des prouesses techniques, mais qui ont aussi tendance à projeter des sensations, des émotions, des comportements ou des valeurs humaines sur les animaux, en leur donnant aussi des prénoms, bah, qui tendent à faire de l'anthropomorphisation.
C'est un point de vue sur lequel, en ce qui me concerne, j'ai évolué. C'est-à-dire que j'étais très hostile à l'approche anthropomorphique. Néanmoins, je pense à un film comme « La marche de l'Empereur ». Et je me suis dit, en regardant ce film-là, que j'ai trouvé tout à fait remarquable, que c'est quand même difficile de ne pas se reconnaître un peu dans la démarche du manchot, la dimension maternelle, dans la dimension des sociétés regroupées, solidaires, finalement, qui nous donne même un certain nombre de leçons. Bon, je ne condamne pas l'anthropomorphisme quand il ne prend pas les gens pour des imbéciles, quoi. C'est juste là la limite pour moi. Mais si ça peut donner un peu plus de poésie au récit, si ça peut amener un peu plus de personnes à s'intéresser au sujet, pourquoi pas ?
Il était une fois un jardin, une terre fertile et généreuse où la vie allait de soi. C'était il y a bien longtemps, avant que l'hiver ne vienne. Depuis, les temps ont passé. La terre a changé 100 fois de visage. Nous sommes toujours là, debout comme des sentinelles. Voici notre histoire.
Et regarde, les gens, regarde au fond, tu les vois?
Ouais. Ah, super. Il y en a trois. Il y en a un qui a levé la tête vers nous.
Il va boire. Laisse-toi.
Pourquoi c'est important le documentaire animalier ?
Pour moi c'est important aussi dans le sens où on va essayer de filmer souvent les animaux qui vont intéresser aussi les réalisateurs animaliers. C'est des espèces qu'on aura peut-être plus la chance de filmer dans quelques années ou quelques décennies. Donc c'est aussi une trace même scientifique de ce qui a pu avoir un instant T à certains endroits. Pour ça, le documentaire animalier est aussi important parce qu'on témoigne de ce qui a pu avoir et on informe sur peut-être ce qui va se passer. Peut-être montrer les choses qui sont et qui ne seront plus, ça interroge le spectateur sur ce que nous aussi, on sera encore là à moyen ou à long terme.
Ils ont vu.
Ils ont vu quelque chose bouger, mais ils n'ont pas encore identifié ce que c'était.
La lumière est belle, là.
Ouais, y a un tronc couché en plus devant. C'est un bon point d'accroche de l'œil. Tu vois, là, le dernier qui quitte l'étang, c'est une femelle.
Là, tu peux pas filmer, là.
J'ai pas le trépied.
Ah, d'accord.
À main levée, avec un tel objectif, c'est impossible.
D'accord. Ça arrive jamais, des documentaires animaliers, un peu caméra à l'épaule?
Et c'est vrai qu'en documentaire animalier, on cherche quand même beaucoup la stabilité.
Ouais.
C'est l'animal dans le cadre qui crée le mouvement. Là, il fuit. Et voilà, c'est fini.
En fait, on est tout seul. On est tout seul dans un champ et on a l'animal. Et en fait, si on rate, c'est que de notre faute. Et je trouve que ça responsabilise pas mal. Et on peut pas se dire que c'est parce qu'on est arrivé en retard à cause du métro, de la grève, de la RATP ou je sais pas quoi. Enfin, on laisse juste les idées vagabonder et c'est du temps que je prenais pas pareil avant. C'est un peu nié, mais c'est assez contemplatif et je pense qu'on écoute plus les choses. Enfin, c'est pas que introspectif, on n'écoute pas que soi, on écoute aussi les petits passereaux. Enfin, et quand on voit rien et qu'on attend 4 heures et qu'on a les pieds glacés, on s'émerveille du moindre petit oiseau qui vient à moins d'un mètre. Enfin, alors qu'on ne fait même pas attention sinon. Mais donc ça met dans un état assez méditatif, je trouve, c'est vrai.
Thank you. Quand j'ai vu que cette école existait, je me suis dit, je rentrerai. J'ai fait des études qui n'ont aucun rapport, j'ai fait 3 ans de sciences du langage. Enfin, j'ai fait bac littéraire, donc ça aide pas.
Ça veut bien dire que l'IFCAM s'est ouvert à tous?
Ouais, moi j'ai postulé plusieurs fois. Là, c'était ma 3e.
D'une certaine manière, ils ont dû se dire, ah ben, elle est persévérante, elle est patiente, elle s'accroche. T'as fait preuve de qualité dont t'as besoin un réalisateur de films animaliers.
Ouais, ça a dû jouer, ouais, c'est sûr. Cette école, c'est vraiment une chance. Quand on cherche sur Internet des noms de réalisateurs animaliers en France, ben, la plupart, on s'aperçoit que c'est marqué IFCAM, quoi. Là, ça fait 12 ans qu'elle existe. Elle a quand même un beau taux de réussite. Puis surtout, il n'y en a pas beaucoup des écoles comme ça, quoi.
Et elle est raisonnable, c'est une école publique.
Ah oui, alors ça, au niveau des tarifs, c'est incroyable. En gros, il y en a pour moins de 1 000 euros l'année. Pour une école comme ça, c'est juste incroyablement pas cher. Faut compter qu'il y a le matos, il y a faire venir les intervenants, parce qu'on n'a pas vraiment de profs, on n'a que des intervenants, enfin, donc des gens du métier, en fait. C'est des professionnels qui viennent nous voir. Pour payer tout ce beau monde, ouais, c'est incroyable qu'elle soit aussi peu chère. Ton rêve, avec cette école, il est possible. On peut faire cette école sans être riche. Et on va peut-être commencer à prendre le retour, parce qu'on va se prendre une rincée.
Ça, c'est une journée normale. Rentrée dégueulasse et trempée.
C'est là qu'on a hâte de partir faire des documentaires dans la savane.
Les coordonnées de l'école sur la page de l'émission, tapez C'est pas du vent dans les moteurs de recherche. Merci à Cerise Maréchaux et aux élèves de l'IFCAM pour ce reportage réalisé par François Porcheron. Prenez soin de vous et des vôtres, et à demain, même planète, même heure.